Chapitre 9. Honfleur, juillet 1979. Nous étions convenus de passer un week-end à Honfleur. Je m'étais promis de racheter la conduite humiliante et minable qu'avait été la mienne lors de notre première rencontre. Comment avais-je pu perdre ainsi la quasi-totalité de mes moyens alors que je n'étais plus, et de loin, un jeune homme boutonneux? Carole semblait ne pas s'être aperçue de mon trouble, ou bien avait faim de ne pas s'en apercevoir. Je n'avais osé le moindre geste affectif durant la plus grande partie de la soirée, passée dans une boîte de jazz, jusqu'au moment où, n'y tenant plus et de la manière la plus gauche qui soit, je lui avais chuchoté « Puis-je t'embrasser ?»« Oh, mais je croyais que tu ne te déciderais jamais !» avait-elle répondu en m'enlaçant. Ses baisers sentaient la vanille, la fraise et la framboise, oui, je dis bien les trois à la fois. Elle m'attendait, place de Clignancourt, à un sac de voyage plein de secrets intimes à ses pieds. Sa tenue, pantalon blanc et veste du même ton, lui conférait un air plus mature. Ses cheveux épanouis sur ses épaules, en une corolle ensoleillée, vinrent frôler ma joue lorsqu'elle déposa ses lèvres parfumées sur les miennes. Notre voyage fut plein de rires et de plaisanteries de potache jusqu'à une courte distance de notre point de destination. Soudain, Carole se vit plus sombre, arrêta le lecteur de disques qui, depuis le départ, inondait la voiture de chansons latino, devint presque mutique, comme à l'unisson avec les nuages qui s'amoncelaient au-dessus de la ville normande. Sitôt sortie de la voiture, abandonnée sur un parking public, Carole se saisit de mon bras, s'y agrippant presque. Je devinais une anxiété indéfinissable, une crainte qui lui faisait enfoncer ses ongles dans ma chair. Je ne dis rien, espérant que le bassin d'Honfleur, avec ses hautes maisons aux couleurs vertes, rouges et ocres, pressées les unes contre les autres comme afin de se soutenir, serait de nature à chasser son spleen. Le visage de Carole s'était subitement creusé. Deux cernes bleuâtres soulignaient les paupières inférieures, les ailes du nez frémissaient convulsivement à l'unisson de son rythme respiratoire rapide. Tout en elle criait une fragilité, un émoi, jusqu'alors insoupçonnée. Je l'avais enveloppée dans mes bras et lui avais posé un baiser sous l'oreille gauche, là où la peau est si fine qu'elle en paraît translucide, où les femmes même déposaient une goutte de parfum. Nous allions dans les rues serrées de la ville lorsque Carole repéra, tapis dans un recoin d'une ancienne cour, un chat des rues au pelage élimé et dont un œil mal cicatrisé laissait sourdre un liquide purulent. Sans manifester de dégoût particulier, elle se mit à caresser et à flatter le vieux matou qui répondait en cabrant son corps dans une sorte de danse de séduction. La jeune fille avait chassé la femme à l'air ombrageux qui s'était emparée d'elle quelques minutes auparavant. J'attribuais ce changement d'humeur à un moment passager. Je compris bien plus tard qu'il faisait partie intégrante de sa personnalité. Il m'a fallu les accepter, les aimer ainsi, car dès les premiers instants, j'ai aimé tout ce qui émanait d'elle, y compris le plus difficile à assumer. Les personnes trop lisses m'envoyaient nuit et vite. Or, chez Carole, j'ai très tôt apprécié cette complexité de tempérament qui faisait que son humeur, que l'on pouvait craindre comme chagrine pour la journée, s'éclairait en un instant. Malheureusement, l'inverse se révélait souvent vrai aussi, sans raison apparente. Elle refusa d'aller dîner dans un des fameux restaurants de fruits de mer qui s'illuminent quand tombe la nuit et projettent des reflets joyeux dans les eaux boueuses du bassin nombril de la cité. « Pas faim, » me disait-elle. Derrière l'église Sainte-Catherine, Nous trouvâmes par miracle un petit établissement dont une chambre demeurait libre cette nuit-là. C'est la première fois que je monte à l'hôtel avec un garçon, dit-elle, le sourire moqueur revenu sur les lèvres que je savais sucrées. J'aime l'expression monter à l'hôtel. On se croirait chez Marcel Carné. Et quant au garçon, si Madame Raymonde veut bien se permettre, lui dis-je en empoignant son sac. La chambre, bien que minuscule, offrait un confort relativement satisfaisant. Je décidai de laisser Carole s'installer à son aise et aller faire l'acquisition d'une bouteille de champagne dans une boutique que j'avais repérée au coin de la rue commerçante et encore ouverte à 7 heures. Lorsque je revins, une dizaine de minutes plus tard, une odeur de cannabis avait envahi la pièce. Recroquevillée dans une robe de chambre grise et sans charme, Carole était assise au milieu du lit. Ses yeux, étonnamment assombris et fiévreux, fixaient un point imaginaire. L'air buté sur sa bouche pincée, son front parcouru de striations inquiètes, créèrent en moi un malaise indéfinissable. Je m'approchai d'elle. Sans aucune arrière-pensée, je posai la main sur une de ses cuisses qu'elle avait longues et musclées. Dans un mouvement presque mécanique, elle écarta légèrement les jambes, mais de manière suffisante pour laisser apparaître le sommet d'un pubis doré. Je rabattis les pans du vêtement afin de la recouvrir. J'étais désemparé. Qu'attendait-elle de moi? Je le sus jamais. Nous passâmes la nuit ainsi, serrés l'un contre l'autre. Elle s'endormit, le corps secoué par de longs spasmes intermittents. Chapitre 10. Paris, juillet 1979. On pouvait l'apercevoir, surtout le soir à la tombée de la nuit, dissimulée dans un recoin d'une librairie entre la rue Dupuytren et la rue de l'École de médecine. Lorsqu'on arrivait à sa hauteur, il surgissait de l'ombre et, comme dans l'urgence, il nous interpellait d'une voix à peine compréhensible. Ça vous intéresse, la poésie? Et sans jamais attendre la réponse à l'interrogation posée, il repartait se réfugier dans son antre. Je l'avais croisé ainsi des dizaines de fois et m'étais habitué à cette scène cocasse, devenue pour moi une sorte de rituel obligé et à la longue banal. Un soir, alors que nous quittions un restaurant fréquenté volontiers par les étudiants du quartier, sa longue silhouette s'approcha de nous et délivra la question habituelle. Ça vous intéresse, la poésie? Carole ne put réprimer un sursaut accompagné d'un petit cri devant le visage blafard et le corps squelettique couvert d'un imperméable noir froissé qui recouvrait en toute saison une chemise jadis blanche à la cravate fatiguée. Je ris et m'apprêtais à continuer notre chemin lorsque la jeune fille, quittant mon bras, se rua derrière l'étrange bonhomme qui se fondait déjà dans l'obscurité. Je les vis s'entretenir une dizaine de minutes sans que j'osasse m'approcher d'eux. Lorsque Carole revint, je fus surpris par la pâleur de son visage, témoignage d'une émotion qu'elle tentait en vain de dissimuler. Alors, qu'en est-il de sa poésie? C'est le genre Paul Verlaine ou plutôt Paul Valéry? Demandai-je en souriant. Ni l'un ni l'autre, répondit Carole à ma demande. Il a ouvert la sacoche qu'il serrait sous son bras comme un bien précieux. Et qu'y avait-il donc à l'intérieur? Questionnai-je, interloqué par la voix troublée de la jeune fille. Rien, il n'y a rien dans sa serviette. C'est terrible. Ce type passe ses soirées, peut-être ses nuits, à proposer un service qu'il ne peut pas rendre. Cela m'évoque une sorte de malédiction que les dieux auraient portée à son encontre en raison d'un forfait ou d'un crime commis dans une vie antérieure. La réponse à sa question ne l'intéresse pas. car elle ne repose sur rien d'autre que le vent. Il exécute sa peine dans une espèce de plainte que personne n'entend, voilà tout. Eh bien, mon ange, moi qui le côtoie depuis au moins 5 ans, je ne pensais pas passer si près d'un héros mythologique déchu, dis-je abusé. Elle ne répondit pas et se renfrogna comme elle en avait l'habitude lorsque je maniais l'ironie à son égard. Afin de me faire pardonner, je l'invitai à boire un cocktail dans un des innombrables bars branchés de la rue Dauphine. Lorsque nous entrâmes, je notai, non sans une pointe de fierté, les regards de la clientèle masculine se porter sur elle. Une fois assis, je remarquai que son trouble ne l'avait pas quittée et imprégnait son joli visage d'un voile de contrariété. Ça n'a pas l'air d'aller. C'est toujours Sisyphe qui te perturbe? Oui, en quelque sorte, répondit-elle en allumant une cigarette. Lorsqu'il a ouvert son cartable et qu'il m'a regardé fixement, oh, j'ai éprouvé un mauvais pressentiment, comme s'il me donnait à contempler mon avenir, un avenir vide. Oh, je ne savais pas superstitieuse des étudiantes en philosophie. Mais non, tu es magnifique et fantasque, comme toutes les petites filles. Tu éprouves le besoin de t'inventer un monde imaginaire, peuplé de dieux jaloux du bonheur des mortels. Le damné aurait bien fait de te reconnaître, de te recommander d'arrêter de fumer toutes tes saloperies, si t'étais plus utile à mon avis. Ne te moque pas, ça n'a rien à voir avec la superstition. Les mythes grecs sont pour la plupart porteurs d'un sens psychanalytique qui n'a été mis en éveil et en évidence qu'à partir de Freud. Considérons donc que c'est mon subconscient qui a réagi ainsi devant ce pauvre poète. Oh, je te demande pardon de t'embêter avec tout ça, comme je te demande pardon pour la nuit horrible que je t'ai infligée à Honfleur. J'ai été paniqué de me retrouver dans cet hôtel avec toi. N'en sais pas la raison. J'ai fumé cette saloperie, comme tu l'appelles. La suite, tu la connais. De toute façon, je ne toucherai plus aux cigarettes qui font rire certains et rendre malheureux d'autres. Je vais grandir. Tu vas être fier de moi. En attendant, épanche ta tête au-dessus de la table afin que je t'embrasse. Lorsque Carole embrassait, cela ne tenait en rien du petit baiser timide que certains osent sur les bancs publics, mais d'un torrent généreux qui enflammait immédiatement les sens et envoyait au diable tous les dieux de l'Olympe avec ses messagers de malheur. Chapitre 11. Paris, octobre 1979. Nous avons fait l'amour. Nous avons beaucoup fait l'amour. La première fois, ce fut dans sa chambre d'étudiante, ou de bonne, c'est selon, au dernier étage, boulevard Exelmans. On y accédait, après avoir escaladé un escalier recouvert de tapis pendant les 4 ou 5 premiers paliers, puis ensuite simplement réduit au bois sans fioriture. Elle me chevauchait toujours, sa position favorite, avec une rage sans retenue. Ses yeux viraient au blanc. Elle râlait de plaisir au rythme de ses hanches. Moi, je voguais à la cadence de son désir, voyageur contemplatif. Je n'en demandais pas plus. J'étais au spectacle. Parfois, elle gardait sa robe alors qu'elle me montait. Son corsage défait, ses cheveux blonds épars, l'ovale de son visage m'évoquait la Madeleine de Lucca Signorelli des Offices, laquelle ne m'a jamais inspiré de pieuse pensée. Il faut la voir resplendir sur ce tableau, son profil de Madone à la moue boudeuse, invitant à des occupations peu célestes, comme un péché tentant auprès du pauvre Christ en croix, tout gris déjà. Le logis que Carole occupait était composé d'une petite chambre garnie d'un simple lit et d'une table. Ensuite, une antichambre servant de salle d'eau et de cuisine. Les toilettes donnaient sur le palier, ce qui ne manquait pas de déclencher des crises de fou rire de notre part, lorsqu'un besoin se manifestait au cours de la nuit. Son vieux lit grinçait, attirant plus d'une fois les remontrances de la voisine du dessous, une célibataire frustrée sans doute. C'est pourtant sur ce matelas mal commode que nous nous donnâmes sans arrière-pensée, sans frein d'aucune sorte, dans l'insouciance de l'amour désinhibé. Épisode d'une vie de bohème dont nous tentâmes plus tard, hélas en vain, de retrouver le sel. Nous apprîmes à nos dépens que la saveur délicate de ces moments si fugaces ne se livre qu'à des papilles vierges et qu'il est illusoire de penser en retrouver le parfum pour le passage du quotidien. Un soir, alors que nos corps épuisés et baignés de sueur reposaient entre ses draps fatigués, son regard se fit mouillé et tendre. Elle se dressa sur un coude, planta ses yeux de félin dans les miens et déclara: « Ça m'emmerde vraiment de te l'avouer, mais je crois que je t'aime. » Chapitre 12. Paris, 6 février 2012. L'acouphène se faisait moins violent. Ribaud prit place sur la longue banquette et se plongea dans une réflexion familière. Le musée du Louvre m'est consubstantiel, je veux dire en cela qu'il m'est aussi indispensable que le sont les organes vitaux, tels que le cœur ou les poumons. Oh, dès que mes pas foulent ces parquets cirés, je me sens chez moi. Mardi, jour de fermeture de l'établissement, aucun visiteur ne vient troubler la quiétude du lieu, hormis quelques conservateurs affairés et gardiens ennuyés. Mais sachant présent, aucun d'eux n'oserait pénétrer dans la salle où je suis actuellement. Depuis plus de 3 mois, je reviens inlassablement m'asseoir face à ce tableau dont les couleurs de feu embrasent tout un côté de la salle. De la croix, la mort de Sardanapale. Le peintre, sur lequel les notions d'espace et de temps n'ont eu aucune prise, car telle est la caractéristique des artistes de génie, a réalisé cette œuvre afin de rendre compte d'une personne qui n'a rien à voir avec le frère d'Assurbanipal. Ma conviction est faite, ce n'est pas le roi de Ninive qui est ainsi représenté. Cette personne, c'est moi. Si je m'éloigne un peu du tableau, les taches de couleur donnent vie à une scène extraordinaire dans son intensité et sa symbolique. Là, je peux me voir. Je repose, confortablement allongé sur de lourdes soieries de couleur rouge et dorée. Ma main droite, soutenant ma tête de manière négligente, témoigne de mon indifférence à la scène. Mon regard est absent, désabusé. Tout brûle et s'effondre autour de moi. Les femmes de ma vie se font égorger. Mira, ma première épouse, repose inerte à mes pieds après un viol meurtrier. Laure entame une danse d'amour et de mort, fouettée en arrière-plan par un guerrier impétueux. À droite du tableau, un eunuque au regard buté et implacable enfonce une dague dans le sein droit de Carole. Le regard de supplique qu'elle m'adresse ne trouve aucun écho, aucune réponse. Plus rien ne me touche ni ne m'émeut. Ni mes certitudes d'antan qui volent en éclats, ni les êtres aimés que la vie supplicie. Oh, si le peintre m'avait connu un peu mieux, il aurait sans doute ajouté un sourire cynique à ses lèvres peu visibles sous la barbe fournie. Rire parmi les décombres. Mais comme Bergotte, vais-je rouler un de ces jours à bas de ce canapé, mort au pied de la toile? Mon pan de mur jaune aura été alors un fragment de peau féminine et laiteuse. L'acouphène avait repris sa torture. Chapitre 13. Paris, 15 février 2012. Il reposait sur le dos. Il se savait embarqué vers une nouvelle nuit d'insomnie. Depuis l'apparition de l'acouphène, le sommeil ne le visitait qu'au petit jour. Il s'endormait alors brutalement pour se réveiller quelques heures plus tard le souffle court, une sueur mauvaise coulant le long de son cou. Des pensées angoissantes surgissaient comme pour le cerner, le harceler sans cesse. Cette nuit-là, il avait éprouvé des doutes sur ses dernières acquisitions. Le dernier cavalier Tang à glaçure que j'ai acheté lors de mon dernier voyage à Hong Kong n'est pas authentique. Oh, à cette seconde, j'en ai la certitude. La tête et l'arrière-train de l'animal appartenaient à deux fragments de statuettes différentes, sans doute intérieurement cassés, puis accolés ensemble afin de donner une seconde vie à ce qui n'est plus qu'un faux, sans valeur marchande. Moi, je me suis fait rouler. Mais comment la supercherie a-t-elle pu ne pas me paraître immédiatement évidente? Quelle intuition a bien pu pousser le marchand chinois à me proposer cet objet maquillé et pour une somme rondelette réglée par moi sans barguigner? Ma faiblesse présente est-elle si perceptible par les autres? Suis-je has-been? Mais si tel est le cas, je suis foutu. C'est la curée qui m'attend. Ils vont se jeter sur moi comme des hyènes sur la carcasse d'un buffle. Oh, il faut dire que je n'aurais jamais fait de cadeau à ces pseudo-experts et marchands de faux en tout genre. Je les ai traînés dans la boue à maintes reprises. Ils vont pas le gêner pour me faire rendre l'appareil. Une chaleur déplaisante envahissait ses membres. Il tenta de trouver une certaine fraîcheur en se retournant sur le côté. Il observa alors le dos de l'ours. Elle semblait profondément endormie. Sa respiration était calme et régulière. Un pan relevé de sa chemise en soie avait laissé à découvert une fesse nue qu'éclairaient les rayons du dernier quartier de lune. L'idée de tendre la main vers ce postérieur afin d'en caresser le galbe soyeux, l'avait effleuré subrepticement. Et idée rejetée dans la foulée. Laure est une adepte du sexe conventionnel, programmée après toilette intime de rigueur. Aucune fantaisie, aucun fantasme n'a jamais eu sa place dans son imagination sexuelle, si tant est qu'imaginaire il n'y ait jamais eu. Elle n'a pourtant pas 40 ans. Il en va comme si la génération de la sexualité débridée avait engendré des filles moralisatrices et à la libido en berne, effet d'un retour de balancier, sans doute, pensa-t-il en ricanant, presque seul, veilleur isolé dans la nuit. Ribaud connaissait par cœur l'histoire de la saga familiale de son épouse. Ses parents avaient lié connaissance rue Gay-Lussac entre deux chars de CRS. Depuis, il racontait à qui voulait l'entendre les barricades, les pavés du boulmiche, les harangues de Dany le Rouge et l'amour libéré, selon les cartes en guet. À l'heure de la maturité, son père, commandant de bord dans une célèbre compagnie aérienne, et sa mère, directrice d'un magazine de mode, avait mené une existence rangée, que d'aucuns auraient qualifiée de bourgeoise, exception faite de la fidélité aux mœurs libérées qui prévalait dans leur jeunesse. Ils avaient adopté un style de vie au cours duquel l'un et l'autre s'étaient autorisés des aventures extra-conjugales en toute transparence, sans que cela ne nuit en aucune façon, en apparence du moins, à l'équilibre du ménage. Contrairement à beaucoup dont la relation amoureuse n'avait résisté qu'une durée limitée à l'épreuve de cette pratique, eux semblaient vivre une passion sur laquelle le temps n'avait trouvé que peu de prise. Sans doute le fait qu'aucun des deux amoureux n'ait subi malgré lui les incartades de l'autre, mais qu'au contraire il les ait encouragés comme élément de stimulation érotique, rendait la clé de ce succès hors des habitudes. Au sortir de l'adolescence, alors que la nature des relations sexuelles entretenues par ses parents se faisait graduellement clair à ses yeux, Laure se lança à son tour dans une sexualité débridée. Les compagnons d'un soir se succédaient au hasard des rencontres sans qu'il y trouvât toutefois un plaisir particulier. Elle imitait simplement l'attitude de sa mère, tout en étant dépourvue de la même foi militante. Progressivement lassée, elle se mit à éprouver un sentiment de dégoût envers ce qu'elle nommait dorénavant les aventures libidinales, jusqu'à en nourrir une certaine défiance. Ribot s'était bien gardé de contester cette façon d'appréhender la chose, et s'en était arrangé sans grand mal, dut-il avouer. La vision de son épouse sur tout ce qui avait trait au sexe et qu'il qualifiait par-devers lui de vision hygiéniste répondait au peu de goût que lui-même ressentait pour la sexualité depuis plusieurs années. Elle avait proclamé au moment de leur rencontre, lorsqu'il avait insisté sur les 20 ans qui les séparaient, sa préférence pour les vieux, la recherche du père asexué en quelque sorte. Une femme jeune, belle et désirable, présente à chaque moment qui lui semblait bon. C'était là tout ce qu'il avait longtemps souhaité, et Laure avait rempli cette fonction pendant quelque temps, puis... Il consulta le radio-réveil dont les chiffres rouges affichaient 2h30. Ses pensées revinrent vers Carole. Pour sa part, elle alternait les phases de calme plat et celles d'activité intense. Au cours des premières, elle semblait ne pas pratiquer l'amour qu'afin de ne pas déplaire à son partenaire. Mais au cours des secondes, son désir adoptait un profil insatiable, presque effrayant parfois par son air obsessionnel. Il se souvint de cette expression de surprise outrée qu'avait affichée une dame douairière de style XIIIe lorsqu'elle les avait découverts se livrant à une activité sexuelle dans le hall d'un immeuble bourgeois. À son tour, il se surprit, mais à rire doucement. Claude s'était esclaffé de manière plus bruyante, provoquant illico la fuite de la vieille chouette. Chapitre 14. Paris, 20 février 2012. Hippolyte Lazare, trouble du sommeil et de l'humeur. Ribot marqua un temps d'hésitation avant de sonner à l'interphone. La voix féminine qui lui répondit, artificielle et suave façon hôtesse les grands magasins, provoquant en lui une impression immédiate de malaise. Ne manquait que la petite musique afin de compléter le tableau. Dans l'ascenseur en bois dont l'exiguïté et les craquements sinistres accroissaient son irritation, il se prit à regretter cette démarche. La faute en incombait à son ami Jean, dont la galerie d'art moderne attirait chaque jeudi soir tout ce que Paris éclatait d'Happy Few, auquel il vendait des toiles dont la médiocrité s'avérait inversement proportionnelle au prix demandé et dont le descriptif croissait en fonction de la pauvreté du propos. L'artiste lui avait vivement conseillé de prendre contact avec ce praticien afin de traiter ses insomnies, voire son acouphène. Ce thérapeute, autrefois brancardier dans une clinique, s'était découvert de nouvelles aptitudes professionnelles lui permettant de développer, à ses dires, certaines méthodes novatrices de soins basées sur des molécules naturelles. Les célébrités du paysage audiovisuel ne juraient que par lui. On ne comptait plus les acteurs, les chanteurs et animateurs d'émissions de télévision passés entre ses mains. Sceptique, mais épuisé par ses nuits de veille, Ribot s'était laissé convaincre. La jeune femme qui vint lui ouvrir présentait un physique plutôt aguichant. Les reliefs de son corps, épousés par la blouse blanche, évoquaient des formes harmonieuses et sans excès. Ce fut la face qui déplut à Ribot. La moue que dessinait la lèvre inférieure, les sourcils épilés, relevés en un accent comme interrompu dans sa course, les yeux qui se voulaient intéresser sans l'être vraiment, concouraient à faire que ce visage exhalait quelque chose de factice et de dérangeant. Vous êtes le bienvenu, minauda-t-elle en l'introduisant dans un vaste salon entièrement orné de meubles contemporains, où des fauteuils rouges et verts en forme de tulipes entouraient des canapés incrustés de coquilles d'escargot. Ribot eut un léger mouvement de recul. Les couleurs violentes, dans leurs intensités, agressèrent sa rétine fatiguée. Il constata avec désagrément la présence de deux patientes qui, assises sur les gastéropodes, devisaient de leurs mots respectifs. L'une d'entre elles, aux belles brunes, au bronzage issu des instituts de beauté, vantait les mérites d'Hippolyte Lazare. Figurez-vous qu'il m'a sauvé. Ah oui, et comment? Interrogeait la seconde personne, une vieille coquette dont les bijoux étincelaient parmi les canapés multicolores. Je souffrais d'arrêt cardiaque à répétition. Les cardiologues nombreux que j'avais consultés m'avaient tous affirmé, après moult examens, qu'il n'en était rien, que tout se passait dans ma tête, que je n'avais jamais fait d'arrêt cardiaque, tout au plus des crises d'hystérie. Ils m'ont conseillé un psy, comme si j'étais folle, rien que ça. Et alors? Relança la bijoutière ambulante. Eh bien, j'ai consulté Hippolyte Lazare sur les conseils de Sylvie M. Vous savez, celle qui a tourné dans le dernier Lelouch. Ah oui, elle y jouait très bien. Lazare m'a cru, lui, et m'a sauvé grâce à une thérapie mise au point par ses consoins. Ah bon, et laquelle? Cela m'intéresse vivement. Des lavements pour évacuer les toxines, 2 séances par semaine durant 6 mois. Une petite fortune en réalité. Chaque consultation coûte plusieurs centaines d'euros, mais ne dis pas que la santé n'a pas de prix. Ribot n'entendit pas la suite. Sans un mot, il passa en triomphe devant la secrétaire, dont la bouche maquillée dessinait un O de surprise. Il dévala l'escalier de service. Chapitre 15. Paris, novembre 1979. Je regagnai mon petit appartement de la rue Saint-Dominique. Je vis qu'elle m'y attendait. Lorsqu'elle m'avait demandé un double des clés quelques semaines plus tôt, j'avais éprouvé un sentiment étrange de fierté et de crainte mêlée. Elle prenait ainsi possession de mon espace matériel après s'être muée en l'objet exclusif de tous mes sentiments. Parfois, j'inclinais à penser que cela faisait beaucoup pour un divorcé de fraîche date. Elle était allongée sur le tapis qui jouxtait mon lit. Une grande partie de mes ouvrages d'art était éparpillée à travers la pièce, tous ouverts à des chapitres traitant de la peinture autrichienne du début du siècle. Il me fallut éviter de marcher sur Klimt, Kokoschka et Kolomoiseur avant de pouvoir déposer un baiser sur les lèvres offertes. Tu m'as beaucoup manqué, me dit-elle. Ses yeux brillaient d'un éclat de plaisir et de désir que, contrairement à beaucoup de femmes, elle ne savait ou ne voulait dissimuler. La conséquence en était de me mettre le feu au sang. Bon, je me suis absenté pour aller chercher le pain, c'est-à-dire pendant 10 minutes 37 secondes et 10 dixièmes. Je notai avec émotion qu'elle avait revêtu ma vieille robe de chambre empreinte d'odeur de tabac. Amsterdamer et de moi surtout. Je m'approchai d'elle et la pris dans mes bras. Regarde, ne trouves-tu pas que je lui ressemble? Me questionna-t-elle en désignant une reproduction de la femme assise à la jambe le plié d'Ingo Schiele. Ouais, pas trop, hormis peut-être la façon impudique que tu as de toujours te tenir en tout lieu, les jambes un peu écartées. Ce qui a déjà été à l'origine d'un millier d'infarctus. C'est malin, mais je pensais plutôt au regard, à l'allure en général. Bon, cette nana est trop mec pour me plaire. Elle a des taches sur toute la peau. Elle souffre sûrement d'une quelconque maladie. Grâce au ciel, tu ne lui ressembles pas, dis-je en écartant le livre avec un air de dégoût exagéré. Moi, comme tu le sais, je suis phobique, tendance hypochondriaque. Alors, rien que de la regarder, je sens des rumeurs, tumeurs redoutables qui me sortent de partout. Les yeux de Carole se virent songeurs. C'est certainement une prostituée dont le monde entier connaît le visage et personne le nom. Il faudrait que je vérifie. Ce regard par en dessous est émotivant car il est plein de méfiance et de souffrance. Et de sexe aussi, je trouve. C'est pour moi un regard évident d'invite à l'amour. Mais peut-être as-tu raison. Dans cette détresse animale réside certainement un érotisme caché qui a incité bien des bourgeois à pousser les portes des bordels de la belle époque. La fille des rues, même malade, plus excitante que la partenaire habituelle et casse-pieds, c'est sans doute cela que veut exprimer cette peinture. Bien, je vois que je t'ennuie. En parlant de sexe, es-tu certain de n'avoir que des tumeurs qui poussent sur ton corps? Me demanda-t-elle en se renversant sur le dos. Chapitre 16. Paris, novembre 79. Son absence durait depuis plus de 3 semaines. Elle n'était pas réapparue rue Saint-Dominique. Sa brosse à dents avait séché. Oh, j'en devenais fou. Avait-elle quitté Paris? Se tairait-elle chez une quelconque amie afin d'échapper à un amour dont l'intensité l'effrayait? Les questions, sa réponse, colonisaient mes pensées de manière à empêcher toute réflexion dont le sujet n'était pas elle. Combien de fois avais-je emprunté le métro afin de parcourir le trajet entre la place de la Sorbonne et le boulevard Exelmans? Oh, je ne saurais le dire. J'avais interrogé le concierge plusieurs fois par jour afin d'apprendre si la jeune fille était passée par sa chambre. Le bonhomme m'avait tout d'abord regardé avec méfiance, puis ensuite, mû sans doute par une certaine pitié, m'avait promis de m'informer si l'étudiante se montrait. À toutes les heures de la nuit et du jour, dévisageant chaque passagère avec l'air grave d'un inquisiteur, j'allais et venais, un étau de fer en serrant ma poitrine. Il suffisait qu'une silhouette gracile apparaisse sur le quai pour qu'aussitôt je surgisse du wagon de métro et la rejoigne en courant hors d'haleine. La déception et la colère noire qui envahissaient successivement mon visage effrayaient alors la jeune inconnue dont je rejetais le bras par dépit après l'avoir saisi avec violence. Parfois, je stoppais net ma course, fixant de manière inquiétante la rame, les joues en feu, les cheveux en désordre. Je faisais ainsi, sans aucun doute, l'illusion parfaite du désespéré que Gustave Courbet a représenté dans un de ses autoportraits. À ces périodes d'extrême agitation succédaient des temps d'attente douloureuse. Je passais alors de longues heures assis à une table d'un petit café situé à l'angle du boulevard Saint-Michel, qui m'offrait une vue imprenable sur cette Sorbonne ordinairement fréquentée par celle à qui cette heure m'était plus chère que tous mes organes réunis. J'avais scruté avec tant de minutie la chapelle Sainte-Ursule, enclavée dans les bâtiments de la faculté, que j'en connaissais dès lors et par cœur les moindres détails. J'avais adressé des prières à Thomas d'Aquin, à Moïse ainsi qu'à Paul et Pierre, dont les statues ornent la façade baroque. Hélas, bien calés dans leur niche, les saints m'avaient semblé prêter aucune écoute à mes préoccupations trop humaines. Carole n'évoquait jamais ses fréquentations. Je n'aurais pas su dire si la jeune fille, parfois si farouche, avait jamais lié une quelconque amitié. Lorsque je décidais de l'attendre au sortir d'un cours, j'observais avec une inquiétude mal dissimulée une cohorte de jeunes mâles en rut qui la suivaient comme attirés par des phéromones. Mais Carole ne s'en souciait en aucune façon et venait aérienne déposer sur mes lèvres à moi un baiser ostentatoire. Un matin, alors qu'encore une fois, dans ma position de guetteur, je somnolais devant une tasse de café froid, il me sembla reconnaître la silhouette boulotte et disgracieuse d'une étudiante dont les horaires de cours correspondaient à ceux suivis par Carole. Jaillissant de ma chaise et après avoir mis à bas quelques tables bistrot branlantes, je fondis sur la jeune fille que j'interrogeais au sujet d'une étudiante du nom de Carole Herrmann. La face rubiconde et ingrate me marqua aucun temps d'hésitation. Oui, je la connais, mais elle semble absente depuis quelques jours. Je l'ai vue fournir une explication à notre chargé de travaux dirigés. Je n'en sais pas plus. Je la remerciai, puis saisi d'une inspiration soudaine, je me retournai vivement et lui demandai: Était-elle seule lorsque tu l'as aperçue pour la dernière fois? Non, je crois bien me souvenir qu'elle se trouvait en compagnie d'un jeune homme. Son petit ami, il me semble. Au cours de la nuit infernale qui suivit cette révélation, nuit au cours de laquelle, me tordant convulsivement entre les draps mouillés, je délirais en invoquant les furies aux robes que j'imaginais ensanglantées, je décidai de lutter contre mes faiblesses de caractère, contre mon absence de maîtrise des sentiments. Je pris la résolution de me forger un cœur nouveau, non plus en amadou, mais comme sorti des fours de l'enfer. Moi avant tout, moi avant tout, moi avant tout. L'aurore me surprit alors qu'en position fœtale, je fredonnais cette litanie. Chapitre 17. Paris, novembre 1979. Je m'étais lancé dans la rédaction d'une thèse traitant de la troisième dynastie chinoise, celle des Zhou. Mes recherches se portèrent immédiatement vers les tortures éventuelles réservées aux épouses infidèles à cette époque. De toute façon, j'avais complètement oublié Carole, c'est-à-dire que je n'y pensais plus que toutes les 52 secondes. Presque une minute sans qu'un pied de feu ne vienne fouiller mes entrailles. Oh, pour moi, une sacrée victoire! La lettre me parvint le 22 novembre, jour où le facteur accusa un retard de près de 15 minutes. Je ne reconnus pas d'emblée l'écriture sur l'enveloppe. Tremblante et hésitante, elle ne m'était pas familière. Cependant, avant de découvrir le contenu de la lettre qui s'y trouvait, j'en devinais l'auteur. La panique et la précipitation me firent déchirer le papier en deux, mais c'est en rapprochant les fragments que je pus en déchiffrer le contenu. S'il y a une chance que tu me pardonnes un jour, rejoins-moi à l'église de Saint-Germain-des-Prés, jeudi à 19 h. Ta Carole. Je lus et relus le message une quarantaine de fois. Mon cœur se mit à pratiquer un rodéo, mes carotides pulsaient comme des tuyaux de forge. Ma vue se troubla, il me semble bien que je dus m'asseoir. Ta Carole. Je notai avec irritation l'emploi du possessif, qui témoignait que, contrairement à ce qu'elle indiquait, elle semblait croire à mon pardon automatique. Ce en quoi elle se trompait méchamment. Quant au choix d'une église, il me laissait ébahi. Elle, qui vantait en tout lieu son athéisme, choisir un lieu de culte comme point de rendez-vous me paraissait inouï. Avec un geste de mépris et complètement revigoré, je fis une boulette de la lettre et la jetai dans la corbeille. Chapitre 18. Paris, novembre 1979. La place Saint-Germain-des-Prés s'endormait, anesthésiée par un brouillard dense que seul perçait la tête des réverbères et les néons du café des Deux Magots. J'avais pris soin de ne pas fouler le parvis de l'église avant l'heure dite. Arriver en avance aurait paru du plus mauvais effet. Me plaçant dans la position du faiblesse du demandeur, du quémandant, cette pensée me révulsait, car l'outrage C'était bien moi. Cependant, se rendre à ce rendez-vous avec un retard avéré comportait le risque de ne plus l'y retrouver et d'en supporter les conséquences. Lorsque j'y avais réfléchi, installé dans mon fauteuil de l'appartement de la rue Saint-Dominique, 10 h 20 m'était apparue comme l'heure idéale et pas une minute avant. Ma montre indiquait 19 h 10 lorsque je passais sous le porche roman. L'office du soir avait commencé. Les fidèles s'étaient rassemblés au centre du chœur, laissant les déambulatoires aux visiteurs. Je la repérais rapidement, debout, comme réfugiée dans une des chapelles rayonnantes à laquelle menait le déambulatoire nord. Les yeux levés vers la statue de la Vierge, elle semblait prier. Je fus frappé de la ressemblance avec la Madonna del Rocío de Fra Filippo Lippi, dont je considère le profil comme le summum de la perfection. Je ne me manifestais pas immédiatement. Maintenant, assuré qu'elle ne m'échapperait pas, je souhaitais, obéissant à un instinct presque sadique, profiter de ce moment pendant lequel Carole, j'en étais sûr, souffrait. Elle tourna la tête et nos regards se rencontrèrent. L'expression de bonheur qui envahit son beau visage flatta, je l'avoue, mon orgueil de mâle. Carole, d'habitude si fière, si indépendante, si pudique lorsqu'il s'agissait d'exposer ses sentiments, se livrait ainsi sans détour, trahie par l'éclat de son sourire. Ce fut elle qui s'approcha. Je notai qu'elle tremblait un peu. Je m'appelle Pierre, dis-je. J'ai 26 ans et suis père d'une petite fille, Aurélie, issue d'une autre vie. Je suis phobique. La maladie et tout ce qui s'en approche m'a paniqué à tel point que tu ne peux imaginer. Je ne sais pas souffrir, enfin, je veux surtout pas. Accessoirement, je suis amoureux d'une garce de 25 ans à qui j'aimerais faire subir le supplice de Martias. C'est qui Martias? Demanda-t-elle. Un satyre phrygien, écorché vif par Apollon et inconnu de quelques soldats analphabètes, mais on s'en fout. Bon, tu m'as donné rendez-vous ici pour me faire part de ta décision d'entrer dans les ordres mineurs. Oh, c'est ce que je vais certainement faire si tu ne me pardonnes pas. Bon, tu me dois, je crois, une certaine explication que j'aimerais accompagner d'une rivière de larmes. Oh, je peux pleurer jusqu'à ce que la scène nous rejoigne ou mourir tout de suite d'une mélangie foudroyante, c'est à toi de décider. Si je suis parti, c'est à cause de notre amour et de la peur que j'en ai eue. Oui, j'ai eu peur de m'attacher, d'en souffrir. Tu comprends, le bonheur, c'est le malheur qui se repose, disait quelqu'un. La vie se venge toujours, et je n'ai pas voulu prendre le risque d'avoir un jour à payer la note. C'est quoi cette philosophie à deux balles? C'est cela qu'on t'enseigne en fac? Il faudrait arrêter de lire des bouquins à Léo de Rose. Là, bon, je crois que je vais vraiment pleurer. Devant les yeux gris-bleus qui effectivement se mouillaient progressivement, je sentis ma morgue et mon ressentiment m'abandonner comme des animaux honteux. Le baiser qui s'ensuivit engendra quelques réactions de reproche au sein des fidèles. Chapitre 19, Paris-Octobre 1982. Nous partagions le même appartement depuis 3 ans. Elle y avait doucement pris ses aises. Une trousse de toilette, quelques vêtements et autres objets personnels avaient tout d'abord marqué le territoire. Divers achats, des éléments de décoration, des produits ménagers indispensables finirent de compléter son installation. C'est donc tout naturellement que je lui proposais de résider à demeure avec moi. Tandis que Carole demeurait indécise pour son avenir professionnel, J'avais reçu la proposition d'intégrer l'équipe d'une prestigieuse salle de vente anglo-saxonne qui ouvrait une salle à Paris. Nous allâmes fêter la nouvelle dans un restaurant situé au second étage de la tour Eiffel, à 125 mètres du sol. Carole m'offrit une biographie de Confucius dans une édition reliée et rare, ainsi qu'un Bouddha en plastique made in Taïwan. On s'amusa beaucoup et c'est un peu éméché que nous prîmes le chemin de retour. Nous saluâmes en riant les gendarmes mobiles stationnés devant l'Assemblée nationale. Nous reposions nus sur le tapis du salon. Je caressais la peau de Carole, faisant apparaître sous mes doigts des dépressions provoquées par les frissons, tout d'abord au niveau du ventre, puis plus haut, sous les côtes, là où la chair est si fine, et enfin sur les seins dont j'aimais voir bomber les tétons. Ma main marqua un temps d'arrêt. Juste sous le mamelon droit, un peu en dehors, saillait une tuméfaction, très visible en contre-jour, une petite masse choquante par sa présence sur la superbe poitrine de Carole. Je sentis une véritable terreur s'emparer de moi, tordre ma moelle épinière jusqu'à créer une douleur intolérable qui m'irradia comme un courant électrique. Mais c'est quoi cette boule que tu as là au niveau du sein? Demandai-je d'une voix qui montra malgré moi dans les aigus. Elle, les cheveux rejetés en arrière, dans la position d'abandon adoptée sous mes caresses, émit un petit rire nerveux. Oh, c'est rien, j'ai dû me cogner, voilà tout. Oh, je m'en suis aperçu il y a une semaine. Un hématome ou quelque chose d'approchant qui va disparaître comme il est venu. Cesse donc de t'inquiéter. Elle fit un mouvement afin de me saisir la tête dans un geste amoureux. Je me dégageai immédiatement, presque méchamment. Mais comment peux-tu affirmer cela? Oh, il faut aller voir ton médecin, faire des bilans, avoir des certitudes. Es-tu fatigué? As-tu déjà été malade? Et les questions se chevauchaient, j'en bafouillais. Carole se redressa. Son regard se troubla, ses yeux gris virèrent au noir. Et d'une voix sourde, elle répondit: Oui, effectivement, j'ai déjà été malade. Une maladie de Hodgkin contractée dans l'enfance, mais déclaré guéri depuis des années. Monsieur le docteur, est-il maintenant satisfait? Non, 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 je ne serai que lorsque tu auras subi des investigations et pas avant. Je me levai en proie à une agitation intense, me versai un verre d'eau, puis revins la prendre dans mes bras. Le désir qui m'habitait 10 minutes auparavant avait laissé place à une angoisse qui me nouait le ventre. Carole s'embarra d'une veste de pyjama. Elle se retourna, me regarda fixement, et sa voix d'alto se vit étonnamment douce. Bon, c'est d'accord, je vais consulter mon médecin. Je me soumettrai aux examens nécessaires et on n'en parlera plus.